88.3 FM.
www.orléans.radiocampus.org.
Quand même, quand on est assistant maternel, on s'autorise à faire du gribouillage. On ne s'autorise jamais à faire du bruit.
L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Pour découvrir le répertoire de la musique contemporaine, une stratégie possible est de raconter la vie de celles et ceux qui la composent ou qui la produisent. Une autre stratégie pourrait être de trifouiller des sons et, par une combinaison de règles du jeu, nous mettre en position de produire des matières sonores analogues. Et la méthode pourrait s'avérer tellement efficace que l'objectif pourrait d'ailleurs aller au-delà de la découverte de la seule musique contemporaine. Le médiateur Clément Lebrun a tout fait, un nombre incalculable d'ateliers au Musée de la Musique à Paris, des vidéos de présentation d'œuvres pour la chaîne YouTube de l'Ensemble Intercontemporain, la série d'émissions d'anthologie Le Cri du Patchwork de 2014 à 2019 sur France Musique, le podcast Le Décodeur du Classique pour l'Orchestre de Paris, et au fil de ses 25 ans de médiation musicale, il s'est forgé une sorte de fer de lance: l'écoute de la musique devrait être inséparable de sa pratique. Dès lors, il met son érudition à disposition après avoir mis ses publics en position de jouer et de gribouiller du son. C'est aussi pour ça qu'il ne parle plus beaucoup de musique contemporaine ou qu'il la ramène à ce qu'elle est, à savoir l'un des éléments du spectre des pratiques sonores, un spectre par lequel il se fait un plaisir quasi obsessionnel de systématiquement limer les genres pour pointer les phénomènes sonores qui permettent de toujours les aborder de manière transesthétique. Avec l'ODIA Normandie et le soutien de partenaires comme la SACEM, la Maison de la Musique Contemporaine, la DRAC Normandie, il a conçu avec Anaëlle Richard un kit qui a déjà trouvé des usages dans un certain nombre d'écoles, mais aussi en éducation à l'image, en milieu pénitentiaire, en présentation de saison. Le dit kit est en fait une grande mallette pleine d'objets à faire du son, qu'il définit comme un bac à sable pour gribouiller des sons en suivant des protocoles ludiques conçus pour découvrir les musiques expérimentales à partir de ces phénomènes sonores, plutôt que par la vie ou les conceptions esthétiques des artistes consacrés, avec, au passage, un plaisir non dissimulé à contourner les théories qui ont pu féconder telle ou telle démarche sonore. Métaclassique a suivi une journée de formation au KIT, animée par Clément Lebrun, dans les locaux de la SACEM, à l'adresse de plusieurs responsables d'institutions musicales, en passe d'adopter le KIT comme outil de médiation.
On l'a voulu comme un bac à sable, parce que c'était aussi une demande des personnes qui avaient pu le tester, pour que ce soit des guides pour donner envie de faire de la médiation, plutôt que des recettes pour faire de la médiation qui marche. Parce que ça dépend évidemment de la personne qui le fait, dans quel contexte et avec qui. Donc c'est plutôt des situations qui ont été expérimentées par des médiateurs ou par des musiciens, artistes, dans des situations de médiation scolaire, adulte, dans plein de situations différentes, que nous, on a pu tester de notre côté, par exemple au doc, ça y en a beaucoup que j'ai pu tester au doc et dans d'autres situations, et qui fonctionnent, parce que nous, on les a portés, mais après, évidemment, chaque personne va y trouver un peu ce vers quoi elle a envie d'aller. C'est 30 jeux, et le mot jeu est important, parce qu'on va parler de sensations ludiques. Je travaille beaucoup sur la notion de ludique en musique, dans les musiques expérimentales en particulier, et à quel moment la sensation ludique arrive lorsqu'on est musicien, en fait, tout simplement, et qu'on est en train de travailler même un quatuor de Mozart. On a un qui s'appelle Papier, qui est un dérivé d'une partition de James Saunders, compositeur anglais, qui est une pièce qui s'appelle With Paper, qui est très utilisée en médiation aussi, parce que c'est un jeu génial à faire collectivement. C'est pour ça qu'on l'a mis en premier, parce que c'est un super travail avec des règles simples. Par exemple, tracer 10 lignes parallèles le plus vite possible. Alors, quand vous mettez 30 personnes qui font ça, ça fait une matière folle, quoi. Alors que toute la génération, la mienne, qui est une génération de gamers invétérés, moi je suis un gamer, j'ai joué à Nintendo, j'ai joué à tout, je suis un gros collectionneur de jeux de société. À quel endroit est-ce que justement le jeu est un endroit hyper sérieux? Pour faire quoi? Pour gommer les hiérarchies entre les personnes qui sont autour de la table, extraire du réel pour créer ce qu'on appelle le cercle magique autour de la table, où chacun respecte une règle qu'il a signée quelque part, un contrat dans lequel tout l'enjeu du jeu, c'est de se dire quel choix je vais faire pour me créer des libertés. Donc, finalement, c'est un peu l'idéal social. Et après, ça, je ne prends pas en compte les tricheurs. Les tricheurs ne fonctionnent pas dans une théorie du jeu, il faut le dire tout de suite. Le chaos ne fonctionne pas dans ma théorie. Donc, on va dire qu'on ne va pas tricher, parce que ça n'a aucun intérêt. De toute façon, quand on triche, on ne joue plus. Et tout ça a été connexe entre la création de jeux sonores pour la scène, la création de jeux ici, et puis l'envie aussi de, pour moi en tant que médiateur, gommer aussi ce rapport de transmission descendante, qui est souvent celle qu'on apprend lorsqu'on est dans une formation de musicien, artiste. Moi, j'ai fait le CNSM aussi à une époque où il n'y avait pas de médiation. Et justement, ce rapport, moi, j'étais dans les classes d'érudition. C'est le mot qu'on donnait aux classes de musicologie. Donc, quand on sort du CNSM, on est érudit. Et moi, j'avais un petit souci là-dessus. Donc, je suis un grand défenseur des droits culturels, dans cette idée que l'érudition, tout le monde en a, et donc comment on peut les mettre à plat pour pouvoir jouer ensemble sur chacun notre érudition. Donc les jeux sont là pour essayer de faire émerger justement cette érudition de chacun, pour qu'il puisse commenter ce qu'il est en train de faire, et non pas nécessairement arriver avec du savoir pour faire amener à l'écoute. On va essayer de l'entretenir ce son, c'est-à-dire continuer, peut-être tous les trois vous allez juste poser les doigts direct délicatement dessus, un tout petit peu plus pour qu'il y ait des grains de son, vous voyez, des tout petits grains de son les uns après les autres, allez-y pour. Pourquoi le cadre, il est ludique ? C'est parce que le jeu permet une libération de parole, permet une libération aussi de sensations. C'est-à-dire, on peut dire, ça me plaît pas, plus facilement qu'en écoutant une musique. C'est-à-dire se dire, bah non, j'ai pas eu de plaisir à jouer. Jouer, c'est créer du plaisir. Si on n'a plus de plaisir, on joue plus non plus. On va se mettre à 4. On va essayer de jamais jouer plus fort que le plastique. On essaye. On va continuer maintenant, on va essayer de se dire qu'on va espacer les grains de son avec du silence. De manipuler de telle manière à ce qu'on entende chaque petit grain de son un peu espacé. Ok ? À chaque jeu est associée une playlist d'écoute qu'il faut absolument écouter, parce que lorsque vous faites le jeu et que vous écoutez la playlist, vous faites directement normalement le lien avec vers quoi on va. C'est parti. On écoute. C'est des crevettes. On vient d'écouter des crevettes, un banc de crevettes et de crustacés qui a été enregistré par Jana Vinderen. Et là, l'ordre qu'on vient de faire, c'est vraiment ça. Je pratique, j'écoute, on échange, peut-être un peu de savoir maintenant, en fonction de là où on en est. Jana Vinderen, c'est une compositrice et artiste sonore qui fait beaucoup de field recording. Donc ça, dans la gamme de field recording, c'est le paysage sonore aussi, comme on appelle ça en France, même si les termes ne sont pas tout à fait les mêmes. Et c'est l'art de poser son micro dans un espace sonore. Donc là, vous avez le glossaire, hein, qui permet de savoir ce que c'est que le field recording. De poser un micro dans un espace sonore plutôt naturel ou urbain, enfin un espace sonore, d'enregistrer. Puis ensuite, vous avez deux familles de paysages sonores, ceux qui ne vont pas faire de montage, donc le c'est brut. Puis ceux comme Jana Vinderen qui recompose en fait un paysage sonore, un field recording au fur et à mesure. Parce qu'on est passé des crevettes à l'extérieur de la mer, ce qui n'est pas possible techniquement. C'est-à-dire, c'est pas avec votre micro qui est au fond de la mer qu'on appelle un hydrophone, vous allez le relever puis arriver en haut. Non, non. Vous entendriez, ce serait horrible. Donc elle fait du montage à partir de paysages sonores. En tout cas, quand j'écoute ça, est-ce que vous faites le lien avec ce qu'on a fait juste avant ? Au niveau sonore, je ne parle pas au niveau de ce que c'est. Au niveau sonore, est-ce que vous faites le lien ? Et c'est ça le but de la mallette, c'est je fais du son, j'écoute, je fais le lien. Et de me dire que quelqu'un a enregistré ça avec l'intention d'en faire une pièce sonore, c'est là l'important de cette mallette. Faire réagir en fonction de ce qu'on a joué pour dire que en fait c'est des matières sonores, et le mot matière sonore il est dans le descriptif du glossaire, une matière sonore qui va être utilisée par des artistes pour amener à leur univers à eux. Jana Vinderen n'a pas que enregistré des crevettes dans sa vie. Hein. Donc évidemment, elle l'a fait pour cette pièce-là qui s'appelle The Nosiest Guys in the World. Aquaculture, c'est l'autre nom de cette pièce-là. Mais ça, c'est le premier extrait de la playlist. Et chaque premier extrait de la playlist est en général assez évident. Il permet tout de suite de faire... Ah, en général, je dis bien, il y en a qui sont moins... C'était compliqué de trouver à chaque fois des morceaux qui faisaient ah, pile l'endroit de la matière sonore. Celui-ci est assez évident, on verra sur les autres. Et de se dire, tiens, je fais le lien sonore. Maintenant, on va écouter le deuxième extrait. Et le tout étant qu'il y a une triangulaire hyper importante, ce qu'on a voulu vraiment dès le départ, hein, quand on en a parlé, c'était tout de suite ça avec Anaël. C'est-à-dire faire un outil qui permet de faire de la médiation, mais qui ne permet pas d'écouter de la musique, ça ne peut pas exister. C'est-à-dire c'est comme si on faisait un livre sur la peinture, mais qu'on ne mettrait pas de peinture. Et ça, c'est pas possible. Quand on parle de Rothko, il faut le voir. Ben là, si on parle de granulation, il ben faut en entendre dans le répertoire. Si on parle de glissando, il faut en entendre dans le répertoire. Et donc, le tout a été de se dire, bah, y a la pratique, il y a l'écoute, et ensuite il y a l'échange. Et cette triangulaire-là, dans la médiation, elle est souvent très inversée. Comme moi, j'ai pu le faire pendant des années, c'était d'abord, on échange, enfin plutôt, on échange unilatéralement. C'est-à-dire, moi, je parlais. Je pense au musée de la musique, c'est là où je me suis formé. Je commençais, j'étais jeune, hein, j'avais 20 ans. Bah, je parlais. Et j'avais des objets. Puis après, on écoutait. Puis ensuite, on allait faire de la pratique, ce qui est un ordre qui paraît évident. Et bien là, c'est l'inverse, c'est pratique, on écoute et on parle ensuite. Et qu'on n'a pas besoin de parler avant de pratiquer pour faire du son. Et ce qui est hyper important, parce que ça va déplacer l'écoute à un endroit du ressenti, de quelque chose de quelle sensation je vais avoir en écoutant, et surtout libérer de la parole, même quand on n'est pas musicologue, qu'on n'a pas l'histoire de la musique de création dans la tête, on peut tout à fait réagir à un phénomène sonore de manière simple. Et mon expérience de médiateur et de formateur me fait dire que tout discours sur une sensation permet d'aller vers peut-être plus de savoir si on le désire. L'exemple que je donne tout le temps et je donnerai à chaque fois parce qu'il est tellement concluant. Pendant des années, je faisais la formation à la médiation et je passais le dialogue de l'ombre double de Pierre Boulez. Dialogue de l'ombre double sans jamais dire que c'était du Pierre Boulez.
Puis après, je disais, allez-y, parlez, dites-moi tout ce que vous entendez. Et que ce soit avec des enfants, 3-4 ans, jusqu'à des musiciens experts, voire musicologues, à chaque fois, j'ai une personne qui me parle d'un petit chat dans la forêt. Un petit chat dans la forêt en écoutant Dialogue de l'ombre double, à chaque fois. Mais j'ai fait l'expérience et je continue à la faire juste pour rire, parce que c'est un peu drôle, quoi, de se dire, les gens ne se connaissent pas, ils ont tous des cultures différentes, ils ont un savoir ou pas, il y aura toujours quelqu'un qui va me parler d'un petit chat dans la forêt. Alors évidemment, la clarinette, parce que c'est pour clarinette, bah, c'est Pierre et le loup, c'est notre culture, c'est le petit chat. Et dans la forêt, bah, mince, ça fait peur, parce qu'on entend qu'il y a un truc un peu bizarre, mystérieux. Mais en fait, juste avec le petit chat dans la forêt, on peut parler complètement de l'analyse de Dialogue de l'ombre double, avec ce jeu de cache-cache entre une vraie clarinette et une fausse clarinette. Comment on peut vraiment creuser à partir de ce petit chat dans la forêt. Donc, comment ça se passe? Très vite. On a voulu que ce soit un peu plug and play. C'est-à-dire qu'on ouvre, on peut brancher facilement. Donc, premier étage, ce ne sont que les objets que vous allez pouvoir utiliser, les règles de jeu et le livret. Et en dessous, vous avez tout ce qui est module électronique. Alors ça, après, si vous l'avez jamais ouvert, vous pourrez vous entraîner après. Ça ne sert à rien, mais vous pouvez faire plein de trucs avec. C'est-à-dire, c'est juste pour tenir les modules. Mais alors, par contre, il y a plein de trucs à faire. Non, c'est quoi ? Le livret et les 30 règles. 30 règles qui tiennent juste sur un recto verso. Ah, c'est bien. Ça. Toi, tu dis. Par convention, on s'est dit, ça peut être un silence. Et vous pouvez choisir de faire un autre son. Là, on va juste rajouter du silence. Dans la règle de base, c'est du silence. Maintenant, vous allez faire le son jusqu'à ce que la carte soit recouverte. D'accord ? Si la carte n'est pas recouverte, vous continuez à faire du son. On est prêt ? Vous pouvez répéter le son, ou là vous faites que le son de la lettre. Vous pouvez faire le nom de la lettre. Le nom de la lettre. Maintenant, la puissance avec laquelle, l'énergie avec laquelle je vais mettre la carte va définir l'énergie avec laquelle vous allez faire vos sons. Donc là, l'idée, c'est que vous êtes en deux équipes, pas vous jouez, et c'est tout. On y va ?
En même temps.
Vas-y, c'est tout. Jouez. Vous jouez, c'est tout. On y va. Oh,
C'est une manière indirecte de leur dire qu'on est en train de faire de la musique.
Et ça,
c'est...
Oui, bien sûr, ouais. Indirect. Enfin, après, moi, j'aime bien provoquer la chose aussi, leur dire... Peut-être des fois, j'utilise rarement le mot musique dans les ateliers, quand même. Je suis plus à essayer d'imaginer du son, du sonore, quoi. Parce que c'est un phénomène sonore. Comme on ferait du gribouillage, je ne me sens pas nécessairement à faire à être artiste quand je fais du gribouillage. Et pourtant, des fois, j'adore ce que je fais, mais je veux dire, j'ai pas une posture d'artiste en le faisant, mais par contre, le résultat, c'est de dire, attends, c'est beau. Et donc là, après, me dire, tiens, en fait, c'est un peu artistique quand même, mon truc. Et pourtant, cette posture artistique, elle est tellement 19e-miste que oui, c'est compliqué je peux pas imposer ma vision de la musique, ou que Didier partage justement sur comment il faut retrouver un rapport simple au son pour pouvoir tous être créateurs, et l'imposer à des gens qui ont un parcours de 25 ans de conservatoire et qui n'ont pas eu cette démarche-là. C'est compliqué de l'imposer juste par l'écrit ou sans formation. Il faut que les gens puissent aussi se prendre le temps et se dire « Ah, je me suis amusé. » Et c'est pas pour autant que je me prends pour un musicien ou pas. Mais je me suis amusé avec du son. C'est déjà énorme.
Le sound painting, c'est un vocabulaire qui a été créé par Walter Thompson, mais que plein de gens déjà faisaient à leur manière, de notre manière. Enfin, c'est-à-dire, c'est un vocabulaire, le sound painting, mais on peut faire ça de plein de manières différentes. Dire que c'est pas des gestes, mais des signes qui vont déclencher l'envie de son, c'est un autre vocabulaire. C'est des solfèges, dans le bon sens de solfège. Donc, c'est une technique, on se met d'accord. Ok.
Si, ça bouge vraiment, ça bouge vraiment, ouais.
Et celui-là est plutôt dedans, non?
Ouais, mais il y a
que j'aurais envie de poser, c'est soit déjà, est-ce qu'il y a en fait, un lien avec ce qu'on a pratiqué avant, soit surtout, qu'est-ce que ça, dans quel état ça vous met ça.
Je trouve ça assez apaisant.
Ah, moi, ça me stresse.
Trop bien.
Le gras plus. Le gras, ça me stresse plus. Enfin, ça fait quand même... Ça crée une ambiance suspendue, non ?
Justement, suspendu.
Ah, j'ai compris. Enfin, ça s'apaisait. Moi, ça me stresse. Enfin, suspendu parce que, qu'est-ce qui va se passer, quoi ?
Ok. C'est un peu les deux, en fait, je pense. Et il y a d'autres vécus ? Est-ce que vous auriez eu envie que ça dure plus longtemps, par exemple, cette écoute de l'extrait sonore ?
Oui.
C'est un contexte aussi. On peut pas vraiment écouter. Il faut être dans un espèce d'état d'écoute plus que ce qu'on peut être là.
Oui, moi, ça fait un état comment ?
La brasserie. T'es contemplatif.
Ça fait un peu
état.
Un
état d'écoute.
Enfin, le fond du Québec.
Les moines chantent.
C'est une chose très difficile à faire, c'est de faire des écoutes collectives. Et parce qu'effectivement, ce genre de musique, si tu mets 2 secondes, on t'a l'effet que tu reconnais comme ça, mais t'es pas dans la musique, t'es pas non plus... Enfin, ça te fait un effet un peu immédiat. Et c'est assez difficile de... Quand moi, je sais que j'ai fait des séances d'écoute, et c'est dur de prendre de laisser le temps aux gens d'écouter. C'est assez... Ouais,
en même temps, quand on accompagne les gens dans leur imaginaire, quel que soit le moment où ça se passe, c'est-à-dire que ça peut être... une image, une sensation, une émotion. En fait, je trouve qu'on rentre vite dedans. Par contre, il faut laisser la possibilité. Là, vous êtes debout, moi, je suis assise. Le fait d'être assise, déjà, ça me permet de plus en profiter. Donc, je pense que ça veut dire aussi qu'il faut qu'on pense à l'état physique dans lequel on met les gens en fonction des exemples.
C'est pour ça que j'insistais. J'avais envie que tu me décrives dans quelle position, dans quel environnement est-ce que tu aurais envie de l'écouter toute seule. Parce que, voilà. Et en fait, moi, si je continuais, je le mettrais, les gens en position d'allonger, pour l'écouter dans la longueur, puisque c'est un morceau qui s'étale dans la longueur. C'est tout l'intérêt.
Un morceau tartine.
L'intuition, il n'est pas si long que ça, il dure 7 minutes. Donc c'est possible de l'écouter dans le cadre d'une séance. Mais c'est long, 7 minutes quand même à assumer. Maintenant, est-ce que vous faites le lien juste pour moi aussi, voir comment, entre l'expérience sonore qu'on a faite là et l'expérience sonore d'écoute qu'on a faite avec le morceau ?
Enfin, moi, j'aimerais bien l'écouter plus longtemps, justement, pour entendre...
Eh bien, c'est des demandes auxquelles on peut...
Avec la longueur, en plus, on défocalise. Enfin, moi, je me mets à écouter le grain de l'archer sur la corde, enfin, à me passionner pour d'autres phénomènes, quoi.
Ouais. Ce que j'utiliserais, c'est... Ils ont bien vu, là, qu'il y avait 4 sons, puisqu'il y avait 4... Et j'essaierai, dans la contrebasse, de leur faire percevoir... est-ce que vous percevez plusieurs lignes, pareil, quoi ? Combien ? Et puis, en fait, c'est énorme, il y en a plein. On est dans les harmoniques, non ?
2 sons qui sont joués, mais t'as les harmoniques qui font que t'entends plein de sons autour, mais il n'y en a que 2 en même temps qui sont joués. Dans le petit texte, donc c'est un contrebassiste qui joue l'unisson et qui doit juste déplacer ses doigts de telle manière à faire un certain nombre de battements qui sont demandés par le compositeur James Tenney. Et donc vraiment, il est juste à travailler le battement, pas à la hauteur de la note, vraiment. C'est le nombre de battements entre les 2 sons.
C'est créer du rythme à partir de son continu, en fait.
À mon signe, vous allez tous frapper une fois en même temps. Et ensuite, vous allez écrire votre prénom dans l'air. Et ensuite, une fois que vous avez fini, vous retapez une seule fois. Donc une fois, d'abord tous ensemble à mon signal. Et ensuite, une fois que vous avez tapé dans les mains, vous écrivez votre prénom dans l'air. Et ensuite, vous retapez et vous continuez jusqu'à ce que je vous donne le signal d'arrêter tous.
On continue à taper.
Non, taper une seule fois.
Tape, non.
Taper une seule fois, écrire, taper une seule fois et écrire.
peux aussi approfondir. N'hésitez pas à aller plus loin. On peut, c'est marqué des sons courts, c'est ça? Au début, c'est marqué quoi? Des pierres, si on a.
Objet sonore à son cours.
Objet sonore à son cours. Là, on a fait les mains, pierres, mais on peut très bien choisir un autre instrumentarium. Est-ce qu'on peut l'essayer maintenant? Parce que faire une seule fois...
Oui, c'est un peu frustrant.
Bah oui,
c'est
vrai. Oui, c'est vrai. Mince, attends, on peut creuser. N'hésitez pas à faire. Cool, super. Maintenant, on va le faire un peu autrement et puis vous allez vous écouter parce que moi, personnellement, j'ai écouté pas trop ce qui se passait parce qu'on est tous le même son. Tu vois ce que je veux dire? Donc, peut-être choisissez des objets, des petits sons. Moi, je vais faire quoi? Cherchons. Cherchons chacun un son court. Tu vois ce que je veux dire? Motivons le chose. Ouais, par exemple, super.
Comment s'appellent les musiciens?
Il a plusieurs prénoms.
Il n'y en a qu'un seul. Il est tout seul. C'est ça qui est...
Alors, est-ce que ça, ça ressemblait à ce que vous aviez fait avant?
Oui, alors moi je pense que dans le résultat sonore, effectivement, sauf que nous, en tant qu'interprètes, comme on était occupés à écrire le prénom, en fait on n'avait pas cette espèce de silence entre les coups. Qui finalement, même si c'est du silence, comme il est joué, il est actif, en fait, il n'y a pas de silence dans notre tête, en fait, quand on est occupé. Enfin, j'ai eu cette sensation-là.
Après, beaucoup plus quand on a changé que quand on a fait les...
Ben moi, j'ai l'impression que si on éplait nos prénoms, en fait, le son des autres aurait plus d'influence sur nous et on aurait plus de mal à tenir notre rythme. Alors que là, comme on est vraiment dans quelque chose de physique, on est obligé d'aller au bout. Après, ça pourrait être des pas, parce qu'on a tous, des longueurs de pas différentes. Ou...
Après, ce qui est très drôle avec l'écriture, c'est que quand tu as quelqu'un qui s'appelle Bérangère, j'ai une gamine comme ça qui s'appelait Bérangère, et à côté, il y avait Paul. Et ben, elle était dégoûtée comment elle devait écrire plusieurs fois son prénom, qui était hyper long. Elle avait 6 ans, elle a commencé à peine à écrire vraiment bien. Mais on avait un truc très drôle, parce qu'elle était là, elle fait, on avait des pierres en l'occurrence, elle fait... Cet atelier-là, on l'a fait avec Thomas. C'est pour ça quand je le refais. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a fait ensemble avec Thomas au doc. Et c'est pour parler de sa musique qu'il a créé ce truc-là ensemble. On l'a fait ensemble parce qu'on parlait, on avait nos pierres. Comment faire des cycles ensemble? On a fait nos prénoms comme ça.
Alors nous avons travaillé sur la glissade. Ouais. La glissade est un concept surtout à l'heure de la sieste. Comment glisser rapidement d'un état de décibel à un autre? Non, pas de décibel, de hertz.
Il faut que tout le monde prenne son téléphone.
Vous avez tout prend son superbe téléphone et se met sur son signal concept. Donc, je ne sais pas le nom. C'est ça? Donc on a commencé, je vous propose déjà tout simplement d'expérimenter votre outil, c'est-à-dire cette petite application, et de voir comment elle marche. Donc vous appuyez sur la flèche et puis vous essayez de faire monter et descendre les décibels, enfin pas les hertz plutôt, de façon plus ou moins rapide.
Voilà, du gras vers l'aigu.
Voilà.
Et de l'aigu vers le gras.
Alors.
Pardon, j'ai mon enceinte.
Vous écoutez, et pour l'instant, vous essayez de monter et de descendre, et essayez d'écouter ce que font les autres pour avoir un déroulement à peu près homogène. Une vitesse de montée et de descente à peu près homogène. On essaye d'homogénéiser le mouvement. D'accord ? Essayez d'avoir des qui fassent un peu comme des vagues. Quand vous avez la sensation que c'est à peu près le même tempo de déroulement, vous allez chacun décider, un de mes gestes, de faire une rupture et d'accélérer ou de ralentir pour qu'on voit ce que ça fait comme différence. Donc pour l'instant, vous gardez l'homogénéité. Et maintenant, chacun choisit son tempo de montée et de descente. Les graves et les aigus. Parfait, vitesse différente. Maintenant, je vous propose, que, maintenant que vous avez un peu expérimenté et l'écoute et l'appareil, on démarre tous ensemble à 440. Et après, c'est quoi la suite ?
Progressivement. Il suffit souvent de cliquer sur le chiffre et vous mettez 440 sur la liste.
Oui, tout le monde est. Ouais.
Cliquez sur le chiffre en haut à gauche. Vous mettez 440.
On est sur les quel type de courbe?
En fait, t'es sur la courbe comme tu le souhaites en fait.
C'est la grande.
La grande roue.
Non, t'es sur Android.
Eh oui, je suis sur Android.
Ah oui, c'est moi. Tu vas pouvoir descendre.
D'accord. Mais du coup, la gestuelle, c'est pas juste vu. Faut aller d'un côté et de l'autre. Donc c'est plus compliqué.
Ah bah oui, bah ça c'est ça, je ne l'ai pas.
Non, non, mais je le dis pour que tout le monde sache.
T'as les petites flèches aussi.
C'est juste ça.
Oui, et alors Android a la possibilité d'aller très lentement ou extrêmement vite. De façon autre que la roulette pour les... Voilà. Donc en fait, ça a un autre rapport au son, au niveau gestuel. Donc on a une équipe Android qui est mixée à une équipe
c'est ça.
Apple. C'est très très ouvert. Alors, vas-y.
Alors, tout le monde est sur 440.
Oui.
Vous allez monter progressivement, lentement vers l'aigu, tous à des vitesses différentes, au signal du pilote. Hein. Là, il n'y a pas de bruit, là. Hein.
Alors, tout le monde 440,
on attend la consigne.
Tous à 440, ok. Tous à 440.
Valérie est pilote, et donc elle vous. À son signe, vous allez monter.
Non, mais là, j'entends pas tout le monde à 440, vous êtes.
Ah, on va lancer.
Là, mais on lance ou pas ?
Oui, on lance. Oui, tout le monde à 440. Voilà. Ok,
tu mets 440, tu cliques dessus.
Au départ de Valérie, vous montez progressivement chacun dans les aigus à votre vitesse. Et quand Valérie dit stop, vous vous arrêtez.
Ok, bon, je vois rien dire.
On arrête le son.
Stop silence.
Après, prends plus de temps pour que la musique se fasse et que la montée se fasse progressivement.
Voilà, alors on recommence tout.
On peut faire l'inverse. On peut faire l'inverse.
440.
Alors, reprenons 440. Allez-y.
On monte.
Est-ce que vous avez remarqué des façons de monter différentes, communes, et qu'est-ce que ça apporte ?
Je suis monté plutôt lentement, en fait.
Oui.
Donc j'avais l'impression d'avoir un son un petit peu plus grave que les autres. Et j'en ai entendu d'autres monter beaucoup plus vite que moi et passer dans l'aigu, glisser vers l'aigu plus rapidement.
Okay. Oui, et est-ce que vous avez remarqué autre chose ? Il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé ?
s'est rejoint sur un peu.
Oui, vous êtes un peu rejoint.
Même fourchette de notes.
Sur les mêmes fourchettes, mais surtout, il y en a qui avaient une façon continue de monter et d'autres par à-coup. Mmh. Et donc, ça donnait un côté pulsé, rythmique, qui était intéressant, avec en même temps un côté des glissades qui montaient en parallèle et des hachures qui d'une espèce d'espalier.
On fait trois groupes, par exemple.
Voilà, trois équipes.
Tout le monde se règle sur 1250.
Alors, ce que je vous propose, c'est que pour l'instant, on a tendance à faire des groupes de gens proches. On va faire des groupes éclatés pour avoir une spatialisation de l'écoute du groupe. Ça vous va ?
Oui, super.
Donc, je vais mettre par.
Mais il y a un groupe qui ne va pas bouger.
Oui.
Qui va rester à 1250.
Oui, très bien. Alors, 1250.
Il y a un groupe qui va monter.
À partir de 1250.
Non. Bah oui, t'as raison.
Il y en a qui peuvent.
C'est quand même écrit comme ça. Hein. Chaque joueur choisit de réaliser son glissando vers l'aigu ou le grave. On peut monter encore.
Là à gauche, vous pouvez choisir si c'est plutôt dans les aigus ou dans les graves. Donc, tu peux changer justement le range, enfin, l'ambitus.
Okay. Ah oui, voilà. D'accord.
Soit tu monteras, soit tu pourras descendre à partir de 1000.
Voilà, donc un deuxième groupe qui monte.
Un groupe qui va monter, un groupe qui va descendre.
Tu montes.
J'ai pas compris comment encore.
Mais... Oui, bah moi non plus.
Moi je peux le faire.
Tu montes.
Oui, tu peux.
Tu montes et il nous faut un quatrième qui monte. Voilà. Quatre montent.
Et le troisième groupe descend.
Les autres descendent. Ça vous va ?
Il n'y a pas des personnes qui vont rester
dans le groupe du premier, vous êtes stable. Les groupes, alors, j'ai fait quatre, mais c'est peut-être pas quatre. Hein. On est peut-être plus nombreux parce que j'ai pas compté combien on était. Voilà, on expérimente. Donc il y a quatre qui sont stables, quatre qui montent dans l'aigu et quatre qui font le reste.
Donc, très progressivement.
On peut y aller ?
C'est parti !
Les gestes, peut-être, non ?
Ouais, mais
on va tuer les gestes.
Non, c'est toi qui fais, moi je ne
sais pas. Sabine, tu peux.
Allez, Sabine. Co-élaboration.
Mais je ne sais pas de faire ça. Je ne sais même pas où sont les gens.
C'est ça qui est drôle.
Nous, on te suit.
Je vous fais passer le premier extrait qui est lié à ce morceau, à ce jeu.
Thank you.
Quand même, quand on est assistante maternelle, on s'autorise à faire du gribouillage, à du dessin, on ne s'autorise jamais à faire du bruit. Là, l'objet, il est là pour dire aux gens, faites du bruit avec les gens, avec les autres, en interaction, et ça peut vous mener à une écoute d'un répertoire qui existe vraiment. Quand on est en train de faire du bruit avec des personnes, dans une séance courte, parce que ça arrive souvent, des situations où justement on va avoir juste une heure avec une classe. Une heure avec une classe, on fait de la matière sonore. Ils vont repartir, on a fait de la matière sonore, c'est cool. Mais moi j'aime à dire que ces matières sonores sont des choses qui ont obsédé des artistes et qui en ont fait leur terreau pour la création. Parce que ça permet d'amener à une écoute d'autre chose que ce qu'ils pourraient entendre d'habitude. Et moi, j'aime ça, parce que c'est comme ça qu'aussi que je suis arrivé à la musique, c'est par l'écoute d'artistes. Et tu peux t'arrêter à la pratique, hein. Il y en a plein qui utilisent la mallette comme étant juste un espace de pratique, en particulier les musiciens. Et les artistes, par exemple, on a des artistes qui prennent le jeu, ils se disent, bah, en fait, moi, ce jeu-là, il me permet de parler de ma pratique à moi et de faire de la musique avec ma pratique à moi. Mais il ne fait jamais écouter les extraits. C'est juste que, comme je disais tout à l'heure, je veux faire une médiation autour de la peinture, je peux très bien faire que de la pratique, il n'y a pas de souci. Mais ça demande un talent de travailler, hein, vraiment de médiateur et d'artiste. Moi, je vais faire ça en tant que plasticien pourri. Et ben, je vais pas le faire pendant une heure. Je vais faire des matières assez simples. Puis après, je vais avoir envie de montrer, en fait, que ces matières simples, ces gestes-là de la peinture vont m'amener à regarder une œuvre de quelqu'un qui a passé sa vie à faire ces gestes-là. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu mettre les gens dans une position de musicien en faisant les ateliers. Mais ça, c'est à toi de choisir si t'es musicien ou pas. On ne peut pas les mettre en position de musicien parce que, de fait et par expérience, les gens n'ont pas envie de se déclarer musicien parce qu'ils ne sentent pas légitimes de l'être. Par contre, de se sentir... Oui, mais...
Ben non, mais justement, c'est moi, je moi, toute l'ambition de la médiation, et au sens très large, c'est justement de dire que la musique n'est pas réservée aux musiciens.
Tout à fait.
Et que justement, on peut tous être musiciens. Enfin, tu vois, je pense à peut-être ce bouquin qui est musiqué, qui est super chouette aussi, qui donne juste au tout début, je ne sais pas si vous êtes tous familiers de ce livre, qui s'appelle Musiqué. Qui essaye de dire tout ce qu'est la musique et justement que c'est pas juste le concert symphonique, ce qui est déconstruit à travers tout le livre, un concert symphonique, donc le lieu où ça se passe, les gens qui vont le dérouler, les compositeurs qu'on joue, parce que c'est des compositeurs, pas des compositrices, comment la hiérarchie de l'orchestre, etc. Enfin bref, il déconstruit tout ça, mais surtout au début, il dit ce que c'est que musiquer pour lui, puisque en fait, il dit que la musique n'existe pas, en gros c'est ça, mais qu'on musique, c'est un verbe en fait. C'est pas un objet, la musique, c'est un verbe. C'est une pratique sociale, collective, plurielle, etc. Et ça, je trouve ça vraiment... Au début, il liste tout ce que c'est pour lui, musiquer les exemples, et c'est le siffler sous la douche, chanter une chanson à son enfant, c'est jouer un concerto...
Moi, je vais juste encadrer un tout petit peu, excuse-moi. À aucun moment, on a voulu faire une théorie et surtout dire ce qu'est la musique. Pourquoi ? Parce que c'est un outil pour que des personnes puissent l'utiliser à son endroit. Et il existe quantité, comme tu dis, musique est un excellent livre, et ma posture est là-dedans, comme moi, je suis médiateur, évidemment. Mais de dire à quelqu'un qui n'a jamais fait de musique, qui ne s'est jamais amusé avec du bruit ou avec des sons, que tout d'un coup, il va avoir ce discours-là, alors qu'il n'a jamais déjà fait la démarche de déconstruire le rapport à la musique, parce que c'est déconstruction de leur rapport à la musique quand tu parles de ça. C'est-à-dire qu'on t'a inculqué que la musique c'était des mélodies et des rythmes pendant toute ta vie, puis tout d'un coup on te dit que tout est musique, si tu le décides en soi. C'est compliqué comme démarche, c'est un parcours de vie. Donc.
Bah, c'est un parcours de médiation aussi.
Oui, mais je veux dire, moi, je ne suis pas derrière tout le monde pour leur dire comment penser l'objet. L'objet, il faut qu'il soit simple d'accès pour qu'ils puissent se dire, tiens, mais en fait, je pourrais faire plein de séances avec, avec ces sons-là, et ça s'appelle de la granulation. C'est pour lui et pas pour les joueurs, s'il ne veut pas le dire. C'est-à-dire, la matière sonore, comment tu peux avoir une fascination de la matière sonore? Et c'est juste ça qu'on a voulu instiguer pour se dire, je peux m'arrêter à la fascination de la matière sonore, donc je suis dans le musiqué, en l'occurrence, mais je peux aussi faire un lien avec ce qui existe aussi pour être dans ce rapport au savoir que plein de gens cherchent. Et des médiateurs cherchent ce savoir-là. Et on ne va pas le refuser pour autant. Parce qu'il n'y a pas qu'une manière de faire de la médiation. Il y en a autant que de personnes possibles.
Du coup, pour ce nouveau jeu, on va vous faire chanter un peu. Donc, je vais vous demander de vous diviser en quatre groupes. À peu près de, je pense, 3-4 personnes. Du coup, vous connaissez, je suppose, tous Frère Ojac.
Oui. Pas personnellement.
Du coup, l'objectif, ça va être d'explorer un peu la thématique des boucles. Et du coup, pour le premier groupe, à mon signal, je vous demanderai de commencer, Frère Jacques, mais de partir uniquement sur frais. C'est tout. Frais. Du coup, pour le deuxième groupe, il va falloir vous joindre à ça, mais sauf que vous allez faire un peu plus. Vous allez faire frère en boucle, continuellement. Pour le troisième groupe, Frère Jacques. Et pour le quatrième groupe, le groupe Frère Jacques. Frère Jacques. En changeant les groupes.
Et en étant plus rapide. Essaye de faire plus rapide.
Très bien.
Tu peux vraiment jouer avec ça et ne pas hésiter à te donner à la voix aussi pour pas les laisser un peu en plan au secours, qu'est-ce que je fais? Et donc s'amuser là-dessus, après de passer au dor, c'est déjà un peu plus difficile. Normalement, c'est décomposé. On a la première étape, après on fait la deuxième étape sur dormé parce qu'on change de hauteur. Mais il faut pas hésiter à les enchaîner comme ça, ok? Et de s'amuser avec ça. Puis après, comme tu faisais, venir inverser les groupes, que chacun sente le rôle de métronome ici, puis les superposer ensuite, ok? Et le fait, en fait, en plus on le fait, quand on est rapide. Il y a un truc, un groove naturel qui s'impose, frère. Il y a un truc un peu fun qui se crée. Et on oublie que c'est frère Jacques au bout d'un moment. Et ce que je veux dire, on est là juste à faire des sons qui se mélangent les uns avec les autres.
Frère
notre sensation. Répétitif, bah c'est bien ça, c'est, ça se répète beaucoup, et en plus de manière indéterminée, c'est-à-dire on répète autant de fois qu'on veut chacune des formules, il y a 53 formules comme ça, la suite les unes des autres, et puis on répète autant de fois qu'on veut, tout en se suivant. Faut pas être trop à distance des copains, quoi. Une sensation. Maintenant, musique répétitive, comme il était utilisé, c'était vraiment pour toute cette vague américaine, en particulier autour de Steve Reich, de Terry Riley, mais il y a quantité de musique qui pourrait tout à fait être appelée musique répétitive. On va essayer de faire que des points de son, c'est-à-dire des points, mais un peu comme on a fait tout à l'heure avec les mains, mais pas de manière répétitive, justement, pas de manière régulière. On va faire des points de son dans le silence, quelque part. Et donc, moi, je vais commencer, je vais être le premier, et au moment où je reviens, le moment s'arrête, d'accord ? La deuxième fois où je fais mon son. Quand je fais mon son, vous allez faire des points de son les uns après les autres en respectant des silences plus ou moins grands entre chacune de vos interventions. Essayez de ne pas être trop présent et d'écouter à chaque fois toutes les interventions de chacun avant de répéter la voix. Ça va jusqu'ici ? On essaye ? C'est parti. Il faudrait pas que ce soit rythmique, justement, que ce soit pas des boucles. Donc on va essayer de se surprendre. Maintenant, moi je fais mon son, il faut pas que les silences entre nous soient toujours les mêmes. Donc si je fais wouch, changez de son aussi, vous pouvez, avec le même objet que vous avez. Il peut être par exemple amplifié d'un coup, arrêté. N'hésitez pas à faire des changements de nuances aussi. Moi je fais un son qui est doux, le son après pourrait être extrêmement fort et un peu plus long. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas là pour sacraliser l'objet sonore avec la mallette. On est là pour dégager de la parole et se sentir libre des choix qu'on va faire en écoutant.
Parce que, par exemple, moi, le premier coup, j'ai rien fait parce que le temps d'entendre tout le monde, enfin, il n'y a pas eu de silence.